sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, il m'a été suggéré de traiter de ce sujet. Peut-il y avoir encore un pouvoir souverain ? Le titre de cette communication laisse deviner, avec le mot « encore » et sa forme interrogative, les doutes que l'on pourrait avoir aujourd'hui à l'égard de l'existence d'un pouvoir souverain. Pour simplifier notre exposé, on fera comme si la question « peut-il y avoir encore un pouvoir souverain ?» équivaut à celle-ci « y a-t-il encore un pouvoir souverain ?» Une telle expression sent peut-être un peu trop l'ancien monde, qui serait celui de la souveraineté. Il serait fastidieux d'énumérer les divers articles ou livres en forme de faire-part de décès de la souveraineté qui émaille le discours politico-juridique. On se contentera pourtant de citer un article paru dans Le Monde en 2014 lorsque Dominique Rousseau réfléchissait à la fin ainsi pitoyable d'Alstom, société française renationalisée et finalement vendue à la société américaine General Electric. Notre collègue, professeur à Paris 1, y voyait la fin non seulement d'un certain capitalisme à la française, une sorte de national-colbertisme, mais aussi la fin d'un certain monde incarné par la souveraineté. Il écrivait notamment « Ce temps-là est fini, il avait un esprit-principe qui le définissait, la souveraineté. Il a désormais sa place au musée d'histoire des idées politiques. » Je poursuis, la souveraineté économique ne veut plus dire grand-chose quand les grands contrats internationaux opèrent de transferts de technologies. La souveraineté nationale ne veut plus rien dire quand les barrières commerciales sont abolies entre les États. La souveraineté du travail ne veut plus rien dire quand l'évolution conduit à remplacer la force du travail humain par des machines et aujourd'hui par des robots. Fin de citation. Il est assez remarquable que dans cette énumération des forces et contraintes qui mineraient le principe de souveraineté, l'éminent auteur, juriste, ne mentionne même pas l'Union européenne qui grignote, on le sait, des pans entiers de souveraineté. L'article date de 2014. Depuis lors, on pourrait même ajouter dans la liste des arguments confortant cette rengaine du requiem de la souveraineté la faiblesse de l'État, notamment face au terrorisme en 2015, ou sa faiblesse face aux réactions épidermiques de la société civile, du moins en France. Mais avant d'examiner cette question de la fin de la souveraineté, qui serait en quelque sorte la question cachée dans la question ouverte qu'il nous est proposé de traiter, il est indispensable de s'interroger sur le sens de la formule « pouvoir souverain ». Celle-ci semble a priori, claire, alors que pourtant, elle ne l'est pas tant que cela, du moins pour un juriste. En effet, l'expression de pouvoir souverain, employée sans davantage de précision, c'est-à-dire sans complément du nom, peut prêter à confusion. On peut supposer que pour la plupart des juristes contemporains, elle signifie le pouvoir de l'État. Mais cette assimilation n'est pas si évidente en réalité. Pour s'en convaincre, il suffit de vérifier dans un catalogue de la bibliothèque à quoi fait référence dans la littérature juridique le pouvoir souverain. Par exemple, dans le catalogue de la bibliothèque CUJAS, la grande bibliothèque de droit française, eh bien, on trouve, quand on tape le mot « pouvoir souverain », on trouve d'abord cette référence, le pouvoir souverain des parlements en matière civile et des voies de recours organisées par les ordonnances de 1539 à 1629 contre les arrêts définitifs. Fin de citation. On comprend alors que l'expression de pouvoir souverain a historiquement été appliquée aux juridictions pour désigner parmi celles-ci les juridictions suprêmes. Bref, la leçon est claire, l'expression de pouvoir souverain peut désigner un autre titulaire de ce pouvoir que l'État, car il s'agit ici des parlements en tant qu'organes de justice de l'Ancien Régime. En réalité, ce n'est guère étonnant, car on le sait, la souveraineté a d'abord été judiciaire, désignant les cours souveraines, avant de devenir législative, désignant l'autorité politique compétente pour édicter la loi, la règle de droit. De nos jours, on continue parfois à soutenir que dans leur ordre de juridiction, la Cour de cassation et le Conseil d'État ont un pouvoir souverain. Encore qu'il faille immédiatement ajouter une nuance de poids, car la double existence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme vient remettre en cause l'idée même de qualifier les juridictions des États membres de ces deux entités internationales de cours souveraines, car leurs décisions peuvent être remises en cause. Or, une cour souveraine, normalement, ne doit pas voir sa décision remise en cause par une autre juridiction. Sa décision est incontestable, car sinon, elle n'est plus souveraine. Toutefois, de nos jours, cet usage de l'expression de pouvoir souverain pour désigner une prérogative des juridictions est pour l'essentiel résiduel. Le juriste contemporain devine aisément que la formule du pouvoir souverain vise moins une juridiction que l'État. Il le pressent encore davantage en prenant en considération le contexte de cette communication qui s'inscrit dans un cycle de conférences sur le pouvoir. Or, est-il nécessaire de le rappeler, en France, la justice n'est pas considérée comme un pouvoir. On connaît la formule bien frappée qu'a utilisée Jean Foyer, selon laquelle la justice est, je cite, « un pouvoir refusé ». Elle doit être considérée comme une autorité, cette autorité judiciaire prévue par le titre 8 de la Constitution. Si la justice n'est pas un pouvoir, elle ne peut pas être a fortiori un pouvoir souverain. Exit donc la justice comme objet de notre champ d'investigation. Bref, le pouvoir souverain ici évoqué doit donc être considéré comme étant nécessairement celui de l'État. Mais, ici encore, une nécessaire précision s'impose car un tel pouvoir peut désigner celui détenu aussi bien par l'État, en tant que totalité, en tant que personne juridique, que par un membre de cet État, ce que les juristes appellent un organe ou encore un pouvoir public de l'État. C'est la raison pour laquelle les juristes distinguent entre la souveraineté de l'État et la souveraineté dans l'État. Ainsi, pour prendre un exemple parlant, quand Jean Bodin, dans les 6 livres de la République, théorise la souveraineté qu'il assimile à l'expression de puissance absolue et perpétuelle, il semble l'imputer à la République, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'État. Or, dans les faits, il vise surtout et avant tout l'auteur, c'est-à-dire l'auteur de la souveraineté législative, c'est-à-dire le monarque ou le prince. Les autres auteurs qui suivront feront de même, mais Hobbes sera le premier à mettre sur le même pied le prince et l'Assemblée, ouvrant la perspective d'un changement possible de souverain, soit le monarque, soit le Parlement. Les révolutions américaines et françaises compléteront le tableau de la souveraineté dite organique en faisant du peuple le titulaire suprême du pouvoir suprême de l'État. En réalité, l'attribution du pouvoir souverain à l'État sera le résultat du travail de la doctrine du droit international public. Il faudra attendre en 1758 la publication du précis de droit des gens du juriste suisse Emmer de Vatel pour que naisse la conscience d'une souveraineté attribuée à cet être moral, à cette personne juridique qu'on appelle de nos jours l'État. Cette distinction entre souveraineté de l'État et dans l'État est importante parce que si l'on prend l'expression de pouvoir souverain au sens du pouvoir détenu et exercé par l'organe souverain, le souverain, de l'État, dans l'État, on voit mal comment on pourra dire qu'il y a un tel pouvoir dans les démocraties contemporaines. En effet, l'effort du constitutionnalisme moderne a tendu à fragmenter le pouvoir étatique et à l'attribuer à divers organes de façon telle qu'il n'y ait plus une autorité, un pouvoir public qui aurait un tel pouvoir de décider seul et discrétionnairement au nom de l'État. Bref, la séparation des pouvoirs est passée par là et la figure de l'organe souverain, du souverain, est un intrus dans le monde du constitutionnalisme contemporain. Cela ne signifie pas que le concept ne soit plus utilisable, car les autocraties anciennes ou contemporaines sont dominées par la figure du souverain. Est-il besoin ici de rappeler la façon dont la Russie et la Chine sont aujourd'hui gouvernées pour comprendre ce que signifie la concentration du pouvoir au profit d'un seul homme? Par conséquent, il nous semble que l'expression de pouvoir souverain n'a de sens de nos jours que si l'on ajoute qu'il s'agit du pouvoir de l'État, en tant que personne juridique et corps collectif. Tout laisserait donc penser que, aux yeux d'un juriste contemporain, qui dit pouvoir souverain dit État, et vice-versa. Pourtant, cette relation d'identité entre État et pouvoir souverain mérite, elle aussi, d'être questionnée. Il faut ici faire un autre détour en empruntant le chemin tortueux de la notion de souveraineté. En fait, au rebours de l'assimilation intuitivement faite entre pouvoir souverain et État, il convient plutôt de relever que, en droit, l'État n'est pas uniquement un pouvoir souverain. Il est certes un pouvoir souverain, c'est indéniable, mais ce n'est qu'une face de son existence juridique. Plus exactement, il peut être souverain sous une forme autre que celle d'un pouvoir. En effet, en matière d'État, c'est-à-dire de concept d'État, il faut toujours distinguer entre sa face interne et sa face externe. Certes, le propre de l'État est la souveraineté, mais le problème vient de ce que le propre de cette souveraineté est d'être dual. Elle est interne et externe, c'est-à-dire internationale quand on parle d'externe. Ainsi, un même mot, la souveraineté de l'État, n'a pas le même sens. dans la langue du droit, selon la perspective qu'on adopte pour le saisir. Les choses se compliquent dans la mesure où les deux formes de la souveraineté de l'État sont même antagoniques. Voyons d'abord la souveraineté interne. Elle s'exerce sur le territoire de cet État et sur toutes les personnes qui s'y trouvent. Et elle est souvent définie comme un pouvoir souverain. Avant d'être souveraine, cette puissance de l'État est d'abord un pouvoir. Sous cet angle, le juriste rencontre la sociologie lorsque celle-ci, par l'intermédiaire de Jean Bachelet dans sa conférence inaugurale, définit le pouvoir comme une relation de pouvoir. En réalité, le pouvoir implique une relation de commandement et d'obéissance entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux sur lesquels il est exercé. On peut mettre en relation cette définition du pouvoir avec celle de l'essence du politique formulée par Julien Freund, dans laquelle une telle relation commandement-obéissance fait partie des trois éléments essentiels du politique, avec d'une part la distinction du privé et du public, et d'autre part la relation entre amis et ennemis. Il en découle, selon nous, que ce pouvoir de l'État, dans sa face interne, est un pouvoir politique, un pouvoir de domination exercé par les gouvernants sur les gouvernés. Ainsi, la question de l'obéissance est ici centrale dans une telle définition. Le pouvoir, c'est une relation entre une personne qui commande et une autre qui obéit. Hobbes l'avait particulièrement bien vu en analysant le pouvoir comme étant une relation mutuelle entre la protection et l'obéissance. Celui qui a le pouvoir de protéger a le droit d'exiger l'obéissance de celui qu'il protège. Mais, et ça on l'oublie souvent, inversement, celui qui n'est plus protégé par le pouvoir est délié de son devoir d'obéissance à son endroit. Autrement dit, c'est sur ce point précis que se fait la rencontre entre le politique et le juridique en matière d'État. La puissance de l'État est, on le verra, une puissance de domination. En revanche, la souveraineté internationale, dite aussi externe, n'est pas un pouvoir, dans ce sens précis que nous lui avons donné plus haut. Elle en est même le contraire. On le devine en lisant une définition du juriste écossais Neil McCormick qui définit la souveraineté externe comme celle caractérisant un État qui n'est soumis à aucun autre pouvoir politique ou autorité juridique dans le ressort de son territoire. Une telle conception a laissé certains juristes internationalistes définir une telle souveraineté internationale par le mot d'indépendance des États. Mais il nous semble que Jean Combaco a mieux illustré la véritable nature de ce type de souveraineté par une formule qui a fait mouche, je cite Combaco l'article, « La souveraineté n'est pas une puissance, mais une liberté ». Il suffit ici de le citer plus longuement. « La souveraineté internationale n'est pas un pouvoir, mais une qualité du pouvoir que le droit international reconnaît d'ailleurs à l'État ». Et si cette qualité est de ne pas être soumise à un pouvoir supérieur, alors, elle s'analyse comme une liberté, la liberté qu'a l'État de faire ce qui est en son pouvoir. Fin de citation. L'ordre juridique international est structuré de telle façon que l'État se voit accorder une présomption de liberté parce qu'il est l'être originaire d'un tel droit et qu'il n'est donc pas en quelque sorte habilité par le droit international public, à l'inverse des autres personnes juridiques. Ainsi, cette conception de la souveraineté internationale exclut l'idée d'un pouvoir de domination d'un État sur un autre. Le principe qui structure ce droit est le principe d'égale souveraineté, ce qui signifie que, en droit du moins, un État en vaut un autre, quelle que soit sa force ou sa puissance. Un tel principe tire son existence du constat selon lequel le monde des relations internationales est un pluriversum et non un universum, comme le disait Carl Schmitt. Le corollaire juridique d'une telle assertion est ce qu'on appelle l'horizontalité du droit international public, qui se manifeste par les instruments juridiques par lesquels l'État exprime sa souveraineté. Ce sont d'une part les traités et d'autre part la coutume. Autrement dit, ce sont les actes ou faits juridiques qui n'existent que parce qu'ils reposent sur le consentement ou la volonté des États. Donc, en toute rigueur, il n'est pas possible en droit d'appréhender l'État comme un pouvoir souverain dans le domaine du droit international public. Parce que dans ce dernier domaine, et seulement dans ce dernier domaine, l'État n'apparaît pas dans sa figure souveraine comme une puissance de domination. Par conséquent, l'État n'étant pas un pouvoir souverain dans l'ordre international, nous n'aurons pas à nous demander si de nos jours, avec la mondialisation ou avec l'hyperpuissance américaine ou l'émergence de la superpuissance chinoise, il peut encore exister en tant que concept pertinent. On pourrait évidemment, pour conclure cette introduction, trouver un peu trop long ces prolégomènes. Mais ils étaient indispensables si on voulait isoler précisément la portée de la question posée. La réduction du sujet du pouvoir souverain au seul État dans son ordre interne laisse néanmoins la place à de nombreux développements, tant et riche le domaine à traiter. On ne peut pas répondre à la question posée de l'éventuelle survie du pouvoir souverain sans le définir plus exactement dans l'ordre interne. C'est seulement ensuite qu'on pourra vérifier si ce concept a encore un sens aujourd'hui ou s'il relève d'un monde ancien ou d'un monde qui finit. Voyons d'abord, premièrement, le pouvoir souverain de l'État, deux points, dissection juridique d'un principe. On a compris donc qu'on se bornerait ici à exposer le principe de la souveraineté interne de l'État, qui nous semble justiciable d'une double analyse. La première touche à sa nature, qui est celle d'être une puissance de domination, tandis que la seconde touche à son extension, à savoir le domaine d'application d'une telle puissance d'État. Ce que signifie cette idée d'une puissance suprême de domination. Sous cet angle, le pouvoir souverain dont on parle ici n'est autre qu'une puissance de domination, c'est ainsi que Raymond Karenmalberg a très bien su l'expliquer dans son avant-propos à sa contribution à la théorie générale de l'État. Dans ce texte important, qui est un texte polémique, Karenmalberg entend réfuter la thèse de Léon Duguy qui veut redéfinir l'État comme une coopération de services publics. Il lui objecte un premier argument d'ordre épistémologique selon lequel, à la différence du principe de collaboration défendu par Duguy, qui relèverait du domaine de la science politique, toute définition juridique, objecte Malberg, au contraire, doit continuer à présenter la puissance propre aux collectivités étatiques comme le trait essentiel et l'attribut suprême de l'État. Fin de citation. Karen Malberg poursuit par un autre argument visant à souligner la différence entre le droit et la sociologie. En effet, explique Karen Malberg, le juriste s'intéresse aux cas extrêmes. Voici ce qu'il écrit. Il est permis de dire que la science juridique ne s'attache pas d'une façon principale aux situations moyennes et normales, mais elle vise plutôt les cas extrêmes, les possibilités extraordinaires, et l'on peut même ajouter qu'elle est amenée à prévoir habituellement le pire. Fin de citation. Qu'est-ce que le pire, donc, pour la science du droit, et notamment la science du droit public ? Karen Malberg ne le dit pas explicitement, mais on peut penser que c'est pour lui l'anarchie, au sens péjoratif du terme, à savoir la désunion entre les individus qui aboutit à la guerre de tous contre tous. Il est donc sceptique à l'égard de la concorde naturelle des hommes et des citoyens et considère plutôt que la collaboration, tant vantée par Duguy, entre citoyens ou entre services publics, peut toujours échouer, car elle peut ne pas être unanime. Dès lors, la possibilité d'un conflit est toujours virtuelle. Il faut donc un tiers pour résoudre les conflits toujours potentiels. Ainsi, la question surgit dans toute son acuité. Que se passe-t-il, dit Karen Malberg, lorsqu'il n'est pas possible à l'État d'obtenir d'eux, les membres de l'État, une collaboration unanime ? Fin de citation. Alors, répond-il, l'État doit trancher. La question qui se pose sur le terrain de la science du droit public n'est point tant de savoir si l'État a ou non besoin de collaboration, mais, poursuit Karen Malberg, mais bien plutôt de rechercher le point extrême jusqu'où s'étend le pouvoir de l'État à l'égard de ses membres qui se refuserait à collaborer. Fin de citation. Une fois cette assimilation effectuée entre refus de collaboration et désobéissance, Karen Malberg adhère donc au lieu commun de la littérature sur l'État, qui depuis Bodin et Hobbes associe la souveraineté à la faculté pour l'État de sanctionner par le droit et des procédures légales la désobéissance des sujets. La puissance de domination de l'État a pour corollaire l'inévitable sujétion des individus. Mais ajoute Karen Malberg, et c'est peut-être le point le plus important de son avant-propos, cette puissance de domination est à la fois générale et irrésistible. Autrement dit, l'État domine non seulement tous les individus, mais aussi tous les groupes internes à l'unité politique, associations, corporations, partis politiques. Pourtant, on peut le comparer avec les groupements partiels qui peuvent aussi, eux aussi, se voir refuser le concours de leurs membres. Mais ceux-ci, à la différence de l'État, ne peuvent pas imposer, je cite Karen Malberg, ni lien d'allégeance, ni collaboration à volonté commune, ni soumission envers cette volonté à ceux de leurs adhérents qui seraient réfractaires. Fin de citation. De cette comparaison de l'État avec d'autres corporations infra-étatiques ou intra-étatiques découle alors la spécificité de l'État, une puissance irrésistible de contrainte. Laissons ici la parole un peu longuement à Karen Malberg. Je cite. Le propre des collectivités étatiques, c'est qu'elle possède, par l'effet d'une puissance qui n'appartient qu'à elle et qui trouve sa consécration dans le droit positif, la faculté d'imposer la volonté générale, même aux membres opposants, et de ramener ainsi la totalité des citoyens à une unité qu'aucun d'eux ne pourrait, par le seul effet de son opposition, empêcher de se former ni rompre. En d'autres termes, poursuit Karen Alberg, le propre de l'État, c'est qu'il est capable de dominer et de réduire les résistances individuelles, et cela se produit naturellement. Voilà pourquoi le juriste ne peut manquer de retenir et de mettre en relief la puissance dominatrice comme le trait spécifique de l'État, comme le point culminant de sa définition. Fin de citation. On comprend mieux alors pourquoi et en quoi la souveraineté interne est cette qualité du pouvoir de l'État qui fait qu'aucun autre pouvoir public ou privé existant sur son territoire pourrait ne pas céder devant ses exigences légales. Cette relation entre commandement et obéissance passe ici par la mécanique des normes. L'État produit du droit, soit par la loi, soit par les décrets ou les arrêtés, voire par sa constitution, soit par ses juges. Et ce droit doit être respecté par toutes les personnes soumises à cette puissance de l'État. Si par hasard, un individu ou un groupement violait les règles de droit étatique, il se verrait immanquablement sanctionné par l'État, d'abord par une sanction juridique, le plus souvent par un juge, et par une sanction matérielle, car la force publique vient prêter son concours aux autorités légales pour donner une effectivité aux décisions juridictionnelles. Tout cela peut sembler abstrait, mais c'est pourtant ainsi que l'État fonctionne comme pouvoir souverain. Aucune autre collectivité publique ne peut prétendre rivaliser avec lui. Ainsi, en France, ni une région, ni un département, ni une commune n'ont droit au maintien de leur existence juridique et ne peuvent en outre voir voir leur régime juridique modifié constamment par l'État au gré des nécessités. Les multiples modifications du droit des collectivités territoriales depuis la grande loi de décentralisation de 1982 suffiraient à établir cette évidence. Voyons maintenant, dans un deuxième point, l'extension du pouvoir souverain. Il ne suffit pas, pour définir le pouvoir souverain de l'État, de le caractériser comme un pouvoir suprême de domination. Encore faut-il préciser ce sur quoi porte un tel pouvoir. Deux précisions majeures ici s'imposent. Selon la première, qui porte sur l'objet de la domination, l'État moderne est d'abord un État législateur et il apparaît d'abord et avant tout comme un État territorial, au sens où il exerce son pouvoir de domination sur des personnes à l'intérieur de son territoire. Plus exactement, le propre du pouvoir souverain est de saisir toutes les personnes et les biens qui sont dans l'orbite du territoire qu'il maîtrise, que ce territoire soit terrestre, maritime ou aérien. Il en résulte évidemment que les étrangers se situant sur son territoire sont soumis à un tel pouvoir souverain. C'est la conséquence logique du fait que le champ d'application de la loi est d'abord avant tout spatial, territorial, et non pas personnel. Le grand juriste autrichien Georg Jelinek a parfaitement résumé cette idée en affirmant que, je cite, « sur un seul territoire, un État seulement, et seulement un État, peut déployer sa puissance ». La seconde précision, tout aussi importante, porte sur le caractère largement indéterminé de l'action de l'État. Il n'y a pas de domaine limité ou réservé à l'État, qui, contrairement à ce qu'enseigne la doctrine libérale, ne peut être cantonné à son prétendu domaine régalien. Dans notre livre sur la puissance de l'État, nous avons suggéré d'appeler cette idée le principe d'omnicompétence de l'État, qui est le résultat direct du fait que l'État détient formellement le pouvoir de donner la loi à ses sujets. Puisque la puissance législative est la forme juridique par laquelle s'exprime la puissance du souverain, les compétences étatiques sont définies non plus par leur objet, mais par leur imputation formelle au souverain et à sa capacité à créer le droit. Cette plasticité du droit exprime l'idée que l'État doit être en mesure de répondre aux circonstances, aux défis que lui pose la société. Déjà, Jean Bodin a formulé cette idée de magistrale façon dans les six livres. Je cite « Il faut que le prince souverain ait les lois en sa puissance pour les changer et corriger selon l'occurrence des cas, tout ainsi que le maître pilote doit avoir en sa main le gouvernail pour le tourner à sa direction. » Fin de citation. Dans la doctrine juridique moderne, le juriste allemand Herbert Krüger a su moderniser cette doctrine de la souveraineté en caractérisant l'État par sa capacité de se saisir de toute affaire politiquement importante dans un paragraphe de son traité sur l'État significativement intitulé, je cite, « De l'impossibilité de fixer a priori et une fois pour toutes les tâches de l'État ». Les tâches, c'est les Aufgaben en allemand, Aufgaben des Staates. Et je cite ici Krüger. Il faut comprendre et percevoir l'État comme cette institution qui est autorisée à fixer tous les buts exigés par telle situation donnée. C'est en cela que réside une différence essentielle entre l'État et les autres groupes. Ces derniers sont caractérisés par un but unique, déterminé et stable, et parce que le pouvoir de fixer les buts peut échoir seulement à l'État, ils ne sont pas habilités à fixer eux-mêmes leurs buts. Fin de citation. Ainsi, si l'on suit cet auteur, l'État contemporain est reconnu aujourd'hui compétent pour traiter des problèmes culturels, économiques et même industriels, alors que la doctrine libérale des buts de l'État tentait désespérément de le contenir dans des limites naturelles. L'actuel glissement du débat de l'interventionnisme économique vers l'interventionnisme écologique confirme la loi selon laquelle l'État se saisit de toute question politique devenue d'intérêt majeur pour la société. La validité de ce principe d'omnicompétence de l'État, corollaire de la souveraineté, peut être confirmée par sa confrontation avec les notions de fédération et de subsidiarité. La fédération suppose, au contraire, un partage matériel de la souveraineté, c'est-à-dire un partage de la puissance publique. Elle s'oppose donc par nature à l'idée de ce principe d'omnicompétence. En effet, le pacte fédératif conçoit la compétence de la fédération ou des États membres comme étant tantôt d'attribution, tantôt de droit commun. Les droits de la souveraineté sont attribués non pas de manière conjointe à des autorités concurrentes, comme dans l'État unitaire, mais à des autorités publiques différentes. La fédération d'un côté et de l'autre, les collectivités fédérées. Aucun des deux ne détient donc un pouvoir exclusif et indivisible à la différence de l'État. N'étant pas un État, la fédération caractérisée par la dualité de puissance publique, fédérale et fédérée, ne connaît pas la souveraineté. J'en arrive maintenant à mon second point, qui est le pouvoir souverain contesté de nos jours. On a cité plus haut l'article de Dominique Rousseau qui évoque la fin de l'esprit principe de la souveraineté, concept qui serait dépassé à l'âge de la globalisation ou de la mondialisation. Le topos est tellement connu qu'on a un peu d'hésitation à en parler, mais on sait qu'une littérature juridique conséquente nous invite à penser le pouvoir, je cite, « au-delà de l'État » ou encore à remplacer la souveraineté par une post-souveraineté ou l'État moderne par un État post-moderne ou encore parler de néo-constitutionnalisme pour évoquer un constitutionnalisme global qui serait à l'échelle mondiale et non plus étatique. Ce courant très significatif de la pensée juridique considère donc qu'il faudrait dépasser ce monde de la souveraineté qui ne serait plus adapté à notre temps en raison d'une évolution soit du droit, soit du fait. Avant d'examiner cette double évolution du droit et des faits, je voudrais, si vous me permettez, donner mon opinion personnelle. D'une manière générale, je rejoins l'opinion du juriste anglais Martin Loughlin, qui a écrit un très bel article qui s'appelle « En défense de la théorie de l'État », où il explique que la figure institutionnelle de l'État n'est ni périmée ni moribonde. La preuve en est, selon lui, qu'il n'y a pas pour l'instant de figure alternative institutionnelle crédible qui soit là pour le remplacer. N'ayant donc pas perdu son objet, la théorie de l'État a encore de beaux jours devant elle, même si on ne peut plus parler de la souveraineté de la même façon qu'il y a 40 ans. Voici ce que je voudrais maintenant vous montrer. Le pouvoir souverain, donc, je vais évoquer les deux évolutions de droit et de fait. La première évolution, c'est que le pouvoir souverain n'est plus imperméable en droit. Donc, je vais parler de l'évolution juridique. On parle parfois du caractère impénétrable du territoire ou de son étanchéité ou de son imperméabilité pour exprimer de façon métaphorique l'idée du pouvoir souverain caractérisé par le monopole de la production du droit. Cette représentation de l'État est évidemment en contradiction avec l'émergence d'un autre phénomène massif qui est celui des ordres juridiques, imbrication de l'ordre juridique national avec l'ordre juridique international ou encore avec l'ordre juridique européen. Dans tous ces cas, il faut considérer du seul point de vue juridique que l'État accepte volontairement, formellement bien sûr, dans le cadre d'une autorité publique internationale, de voir son pouvoir souverain limité. Il perd l'exclusivité de son pouvoir dès lors qu'il consent à exercer le pouvoir avec autrui, avec d'autres États. De ce point de vue, on mettra ici l'accent principalement sur le cas de l'Union européenne, qui est le plus emblématique de cette intrication des ordres juridiques. Même si l'Union européenne n'est pas une fédération, en tout cas selon moi, elle signifie indéniablement un processus de fédéralisation qui n'est pas achevé. Le fait que les États ne possèdent plus la maîtrise de leur monnaie depuis le traité de de Maastricht suffit à prouver qu'une des célèbres marques de souveraineté de Baudin a été abandonnée par les États et transférée à cette entité, l'Union européenne, et en outre gérée en son sein par une instance indépendante qui est la Banque centrale européenne. Du point de vue de sa substance, la souveraineté des États part en lambeaux. On utilise parfois la métaphore du chou-fleur. À partir de combien de fleurs disparues dans le chou, car transférées à l'Union, y a-t-il encore un chou, à savoir un État ? D'où la question délicate, la plus fondamentale. Si le pouvoir souverain est suprême, formellement parlant, mais dépouillé de ses attributs, peut-on encore dire que le pouvoir de l'État des États membres est encore un pouvoir souverain ? C'est tout le problème que pose la fédéralisation du pouvoir étatique. On connaît la réponse classique proposée par la doctrine du droit international, à savoir que la conclusion de n'importe quel traité est l'expression même de la souveraineté d'un État. Donc, la conclusion des traités européens, du traité CECA au traité de Lisbonne, en passant par le traité de Rome, ne serait que l'expression d'une telle souveraineté, et donc parfaitement incontestable. En même temps, et symétriquement, les juridictions constitutionnelles, chargées d'examiner, quand elles sont compétentes pour le faire, la compatibilité des traités intégrateurs de l'Europe avec les constitutions nationales, ont dit, plus ou moins nettement, que ces traités étaient contraires à la Constitution. La preuve en est qu'il fallait modifier la Constitution nationale pour rendre possible la poursuite de la construction européenne. En France, le Conseil constitutionnel a même inventé une expression ambiguë de conditions essentielles d'exercice de la souveraineté pour affirmer, par exemple, à propos du traité de Maastricht en 1994, qu'il fallait réviser la Constitution si on voulait ratifier de façon licite le projet de traité. Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse paraître aux profanes, l'expression de la souveraineté internationale conduit ici à une violation de la souveraineté nationale. Et pour s'en sortir, les légistes ont dû réviser la Constitution pour autoriser un transfert plus important de compétences à l'Union européenne. En réalité, la question européenne soulève un problème aussi difficile que passionnant, à savoir, un État peut-il renoncer de lui-même à sa souveraineté ? De ce point de vue, l'analogie avec l'engagement fédéral sous forme de pacte fédératif est frappante. Dans ce dernier cas, car il ne s'agit pas d'un véritable suicide politique, car l'État, dans une fédération, survit sous une autre forme que celui de l'État. Il devient un État membre. C'est mutatis mutandis ce qui se passe dans l'actuelle Union européenne. Les États deviennent des États membres de l'Union européenne, de sorte que la doctrine propose même d'isoler ce statut en parlant parfois d'un État intégré pour désigner cet État membre de l'Union européenne qui a transféré une partie de ses marques de souveraineté à l'Union européenne. La situation qui en résulte est une situation d'entre-deux qui me semble bien résumée par le juriste écossais que j'ai cité tout à l'heure, Neil McCormick, selon qui, je cite, « ni les États membres, ni l'Union européenne, dont ils sont membres, ne peuvent être, à strictement parler, être considérés comme jouissant de la souveraineté de nos jours ». Fin de citation. Pour démontrer cette idée, il recourt à une comparaison très métaphorique. On peut, dit-il, considérer la souveraineté comme étant soit une propriété, et alors ce qui est perdu est gagné par celui qui l'acquiert. Soit comme étant l'équivalent de la virginité, et la perte de celle-ci ne signifie pas un gain, d'un autre côté, d'un bénéficiaire. McCormick penche pour cette seconde solution, car il estime que la perte de souveraineté au sens défini plus haut de pouvoir souverain n'est pas compensée par un gain de souveraineté au profit de l'Union européenne, qui n'est pas un État, ni même un super-État. C'est un constat qui nous semble lucide. Il semble évident que l'on ne peut plus décrire l'État moderne, du moins l'État membre de l'Union européenne, comme doté d'un pouvoir souverain, en droit. Il ne l'a plus pour la bonne et simple raison que les traités de l'Union européenne ont en quelque sorte avalisé cette renonciation à la souveraineté. Nous allons cependant voir maintenant que cette renonciation n'est pas forcément irréversible. On arrive évidemment à la question fondamentale de l'Union européenne, qui est la question du malaise européen, qu'on définit parfois comme étant le déficit démocratique, mais que je préférais ici définir comme le malaise démocratique. On voudrait l'illustrer par comparaison avec le principe du fédéralisme. On prétend souvent que seul le régime fédéral permet de penser une démocratie existant en dehors du cadre national, c'est-à-dire au-delà de la communauté politique d'origine, dans la mesure où la démocratie sera en quelque sorte étendue du niveau de l'État membre au niveau de la fédération. Seule une démocratie fédérale, c'est-à-dire une démocratie de démocratie, composée de démocratie, concilierait les deux conditions requises par un tel élargissement. D'un côté, une forme politique qui dépasse les États-nations et les englobe, ça c'est la fédération, et d'un autre côté, une forme de gouvernement supposant la maîtrise de son destin par le peuple, c'est-à-dire la démocratie. Pour qu'un tel dessaisissement de la souveraineté des nations d'origine soit compatible avec le principe démocratique, il faut que celui-ci irrigue de part en part la fédération, c'est-à-dire qu'il règne sur les deux phases de la fédération et les États membres. Une telle construction passe néanmoins sous silence la difficulté inhérente à la démocratie fédérale. Même s'il existait un peuple de la fédération décidant au nom et pour le compte de tous les peuples de la fédération, le peuple des États membres, le risque d'une minorisation d'une nation fédérée demeurerait. Autrement dit, le problème auquel est confronté tout peuple décidant de s'unir avec d'autres peuples en vue de fonder une fédération est celui du risque d'abandon de la souveraineté. Dès lors que les autorités fédérales peuvent se décider à la majorité et non à l'unanimité, des déclarations contraires à celles que voudrait le peuple seraient, à celles que voudraient les peuples, seraient voulues par la fédération. N'est-ce pas cette difficulté qui est au centre de la querelle sur la souveraineté qui date du traité de Maastricht, puisque l'extension du transfert des compétences signifiait nécessairement à un moment donné que sur un certain nombre de sujets, les États membres perdaient leur droit de veto et étaient minorisés dans des cas possibles quand l'équivalent du pouvoir législatif européen prend une décision à la majorité et non à la minorité. Le déficit démocratique provient de ce que les instances européennes ne sont pas toujours élues au suffrage universel, mais surtout ne sont pas politiquement responsables. Toutefois, dans la littérature juridique, une thèse assez répandue consistait à soutenir que les États restaient souverains dans la mesure où ils étaient, je cite la formule de Dieter Grimm, restaient maîtres des traités. Mais dans cette acception, cela signifie principalement et uniquement que les États conservaient la compétence de la compétence car ils maîtrisaient la révision des traités, une révision ne pouvant être effectuée sans leur consentement, en raison de la règle d'unanimité. C'est cet argument que défend également Michel Tropper. Un tel argument transpose au niveau du traité le raisonnement appliqué par beaucoup à la révision de la Constitution qui est supposée exprimer la souveraineté dans l'ordre interne. Toutefois, la survenance du Brexit est venue perturber ce raisonnement car cet événement ne s'est pas situé dans le cadre de la révision des traités. Il s'agissait bien davantage, selon moi en tout cas, d'une sortie des traités, pour employer une expression familière. Ici encore, le parallèle avec la Fédération est éclairant. La présence du risque d'une sécession, d'une minorisation permanente, d'une fraction de l'État ou d'un seul État dans une fédération induit le risque de la sécession. Ce moyen d'action en dernière instance, cet ultima ratio propre à toute fédération. On l'a vu avec les États du Sud des États-Unis qui se sont rebellés quand ils ont compris que la victoire de Lincoln signifierait la fin de l'esclavage, fondement de leur prospérité économique. C'est aussi le cas du Québec dans son aspiration à l'indépendance. Dans sa décision de 1998, la Cour suprême du Canada a estimé qu'une sécession à condition d'être négociée et non purement unilatérale pouvait tout à fait être partie intégrante du pacte fédéral qui unit tous les États d'une fédération. Ce détour par la question de la sécession d'une fédération nous semble judicieux pour évoquer la question du Brexit. Comme on le sait, le Royaume-Uni a utilisé les dispositions de l'article 50 du traité de Lisbonne pour se retirer de cette union. On rappelle que par référendum du 23 juin 2016, le peuple anglais a décidé de quitter l'Union européenne. Après de multiples péripéties qui ont duré plus de 3 ans, un accord de sortie a été conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui a été approuvé par une décision du Conseil européen en date du 30 janvier 2020. Il nous semble qu'une lecture du droit en vigueur conduit à penser que le Brexit témoigne de l'existence du droit pour un État, membre de l'Union, de sortir unilatéralement de l'Union. On veut dire par là d'un droit unilatéralement et discrétionnairement exercé. C'est du moins ce qu'une courte exégèse de l'article 50 prouve. D'une part, son premier alinéa reconnaît solennellement ce droit de sortie, je cite, « Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. » Les alinéas suivants décrivent la procédure et les effets. Ainsi, le second alinéa stipule que l'État membre qui décide de se retirer de l'Union notifie son intention au Conseil européen. À la lumière de des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Fin de citation. C'est bien ce qui s'est passé, puisqu'il y a d'abord une décision unilatérale de quitter l'Union européenne, ensuite seulement un accord de sortie. Mais selon moi, les deux choses sont indépendantes l'une de l'autre. Le texte de l'article 50 mentionne bien que l'État membre décide de se retirer. Par contre, par conséquent, il ne décide pas avec les autres de partir. Il décide seul et ensuite négocie les modalités de son départ. Autrement dit, la décision du retrait est un acte unilatéral, à la différence de l'accord de sortie qui est un acte conventionnel. La meilleure preuve, selon nous, tient au fait qu'à un moment donné, des négociations sur la sortie, tout le monde était prêt à envisager une sortie sans accord. Cette perspective du no deal qui agitait les milieux politiques à Londres et à Bruxelles signifiait la possibilité d'un échec pour conclure l'accord de sortie, sans pour autant préjuger de la sortie, jugée inévitable ou irréversible. Bref, le Brexit a illustré l'existence d'un moyen radical d'actualiser une souveraineté latente en la figure de la sécession unilatérale qui était, à la différence de ce qui se passe dans maintes textes des pactes fédératifs, prévu par le traité de Lisbonne. L'autre intérêt du Brexit est qu'il fait télescoper la souveraineté de l'État avec la souveraineté du peuple. Certes, en droit, si on lit les actes juridiques officiels, c'est bien le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui est désigné comme la personne juridique compétente pour conclure les traités. Mais dans les faits, c'est bien le référendum initial provoqué par Cameron qui a été l'élément décisif. Le 23 juin 2016, une majorité du peuple britannique, 51,9%, a décidé de quitter le navire européen, c'est-à-dire à voter « leave » au lieu de « remain ». Pourtant, ce référendum n'avait que valeur consultative. Mais la souveraineté politique du peuple, expression de Dicey, a contraint le Parlement de Westminster, le titulaire de la souveraineté juridique, toujours Dicey, a décidé le départ de l'Union européenne, alors même que le gouvernement anglais avait cru possible de déclencher seul la procédure de sortie. Les juges sont venus rappeler qui était le souverain en droit. On voit ici se télescoper la souveraineté de l'État et la souveraineté de l'organe. C'est le souverain légal, le Parlement de Westminster, qui ratifie la décision du peuple du Royaume-Uni, le souverain politique, de ne plus rester membre de la collectivité publique appelée Union européenne. La question existentielle est donc tranchée par les électeurs. Par la même occasion, on s'aperçoit que le Royaume-Uni reste un État unitaire, car le peuple du Royaume-Uni décide pour les autres peuples, composantes de ce peuple. En effet, comme on le sait, le peuple écossais, si cette formule a un sens, a voté dans le sens contraire de la majorité et aurait souhaité rester membre de l'Union européenne. D'une certaine manière, le Brexit a démontré in vivo, si l'on peut dire, que les États membres de l'Union européenne conservaient en dernière instance la prérogative suprême de quitter l'organisation à laquelle ils appartiennent. C'est un usage suicidaire de la souveraineté, rétorquent les partisans du maintien de l'Union européenne. Ainsi, le président de la Banque européenne, M. Draghi, s'exprimait dans les termes suivants à l'Université de Bologne le 22 février 2019, après avoir rappelé que l'Union à elle seule ne constituait plus que 7% de la population mondiale et qu'elle devait naviguer entre une Chine conquérante et les États-Unis. Il a alors déclaré, au vu de ce contexte menaçant pour elle, la chose suivante. Je cite M. Draghi. « Les pays d'Europe doivent travailler ensemble s'ils veulent disposer de cette aptitude à façonner son destin qu'on appelle la souveraineté. Peu de pays européens ont une taille leur permettant de peser sur les négociations commerciales internationales. Bref, dans les domaines où l'État-nation n'a guère de pouvoir seul, l'Union européenne n'empiète en rien sur la souveraineté de ses membres. Elle seule leur offre la possibilité d'en reconquérir. » Fin de citation. C'est exactement l'argument économico-politique qui est le leitmotiv de tous les écrits de Jean Monnet sur l'Europe. Mais le juriste, lui, doit seulement constater que l'argument qu'il a emporté en pratique fut l'argument classique de la souveraineté dans son sens le plus moniste qui soit, aux grandes dames de ceux qui auraient voulu une interprétation plus pluraliste. J'en viens maintenant au pouvoir souverain menacé par les faits, mais je n'ai pas regardé l'heure, donc je ne sais pas si il me reste encore...
Continuez, vous avez encore... Bon,
moi, je serai plus bref, rassurez-vous. Parce que... Le pouvoir souverain maintenant menacé par les faits. Depuis le début du XXe siècle, on fait régulièrement le procès de l'État qui serait dépassé par les forces sociales, soit par les groupes économiques puissants, soit par les forces sociales comme les syndicats. La théorie de l'État pluraliste de Lasky, et dans une certaine mesure de Dugy, a théorisé cette obsolescence de l'État entre deux guerres. Depuis les années 20, sous Weimar, les meilleurs esprits en Allemagne se sont posés la question de savoir si l'État pouvait être encore considéré comme l'organisation capable de transcender les forces économiques et sociales et d'imposer sa volonté aux diverses forces institutionnalisées. Dans les années 60, ce débat rebondit quand est évoquée la menace que faisaient peser les grandes entreprises multinationales sur la souveraineté des États. On garde en mémoire peut-être le mot fameux du PDG de General Motors, ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis, de sorte que le capitalisme avait ici partie liée avec l'impérialisme. Faut-il rappeler que les nationalisations en France de 82 ont été largement fondées sur ce thème d'une reconquête de, je cite, « la souveraineté industrielle ». De nos jours est régulièrement évoquée la menace que feraient peser les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, sur la souveraineté numérique. D'une façon générale, cette révolution technologique qui bouleverse la vie quotidienne et qui est le vecteur de la troisième révolution industrielle affecterait la souveraineté d'une double façon. D'un point de vue fiscal, car la plupart de ces GAFA échappent à l'impôt, et d'autre part, du point de vue de la sécurité de l'État, car des entreprises privées seraient de facto détentrices de données sensibles. Je vous renvoie à la discussion de la semaine dernière sur le cloud souverain. Du point de vue qui est le nôtre, à savoir le pouvoir souverain, la question numérique reprend l'ancienne selon laquelle le capitalisme ferait peser une grave menace sur les États-nations, dans la mesure où les entreprises privées remettraient en cause la prétendue prétention de domination que l'État élève sur son territoire. Pour résumer la situation provoquée par l'éruption de ces nouvelles technologies de la communication, on dit parfois qu'une logique de réseau supplante de plus en plus les logiques de lieu. La création de ce cyberespace aurait pour effet de créer une multiplicité de normativités, dont ces normativités techniques engendrées par la révolution numérique qui mettraient en péril la normativité étatique. Mais dira-t-on, la révolution des transports n'a-t-elle pas produit le même phénomène ? Par exemple, l'aviation, cette nouvelle technologie qui se jouait des frontières physiques, n'était-elle pas aussi équivalente à la rupture numérique ? Toutefois, dans le cas du transport aérien, les juristes, jamais à court d'imagination, ont immédiatement créé l'équivalent d'une frontière terrestre avec cette idée d'un territoire aérien se situant abstraitement au-dessus de la frontière terrestre. Cependant, il est permis de relever une nouveauté, peut-être, dans la révolution numérique qui devrait intriguer le juriste. Celle-ci, en effet, pose un défi au pouvoir souverain dans la mesure où elle remet en cause frontalement le fondement territorial de sa domination. En effet, le propre de la révolution numérique tient à cette capacité à se jouer des frontières et à concevoir le monde dans lequel elle agit comme un espace mondial ou mondialisé. Il y a désormais des acteurs du droit qui agissent sur le territoire national. Ils écrivent, par exemple, sur l'ordinateur de leur bureau ou de chez eux. Mais le droit qui leur est applicable n'est pas ce droit national, mais un autre droit, parce que, par exemple, l'hébergeur du site sur lequel ils écrivent est à l'étranger, ou encore parce que la domiciliation de la messagerie sur laquelle ils écrivent est à l'étranger. Le lien de rattachement du droit subit une mutation fondamentale, comme le montre l'exemple sidérant des entreprises qui, ayant passé des contrats avec l'Iran, tombent sous le coup de la loi des États-Unis parce que les tribunaux de cet État se sont estimés compétents pour la seule raison que les e-mails, leurs courriels, ont transité par un service domicilié aux États-Unis. On voit ici comment Internet et impérialisme ont partie liée, dans la mesure où la maîtrise des données techniques est un formidable attracteur de compétences juridictionnelles. Mais, encore une fois, est-ce une véritable nouveauté ? Comme on le sait, les États-Unis ont développé une législation visant à lutter contre la corruption, c'est une loi qui s'appelle Foreign Corrupt Practice Act, qui apparaît fort invasive. Au terme de cette loi modifiée en 1998, y est désormais soumise toute personne physique ou morale qui agirait frauduleusement, je cite la loi, sur le territoire des États-Unis en faisant usage du courrier postal ou tout moyen ou instrument du commerce entre États ou de toute autre manière en vue du paiement de toute somme d'argent ou du don de toute chose de valeur ou de proposition, de la promesse ou de l'autorisation d'un tel paiement ou d'un tel don à tout agent public étranger. Fin de citation. Les juges américains ont ainsi prétendu que des entreprises européennes pouvaient tomber sous le coup de la loi américaine pour le seul motif qu'elles avaient libellé leur contrat avec l'Iran en dollars. Ainsi, le seul critère de la monnaie peut être un critère de compétence juridictionnelle. Or, la monnaie ne connaît pas de frontières, elle non plus. Cette évolution témoigne d'une interprétation très large de l'extraterritorialité de la législation américaine qui a attiré l'attention de nos députés français, dont certains ont rédigé en 2016 un rapport très critique sur, je cite, « l'extraterritorialité de la législation américaine ». Dans la conclusion de ce rapport, ils considèrent, je cite, « comme nécessaire de faire valoir auprès des États-Unis que certaines pratiques sont devenues abusives et que la France ne les acceptera plus ». À ce titre, ajoute-t-il, « la France doit exiger la réciprocité dans l'application de certains accords internationaux. Elle doit également se doter d'armes juridiques similaires aux États-Unis pour pouvoir lui imposer des politiques coopératives. » Fin de citation. En réalité, de tels faits révèlent un impérialisme de la puissance américaine qui utilise le droit pour étendre sa domination économique sur le monde et sur l'Europe. Mais cet impérialisme, de fait, ne repose-t-il pas uniquement sur la démission, de fait, des autres États qui ne réagissent pas juridiquement à cette tentative unilatérale d'imposer l'extraterritorialité d'un droit national. Cette observation rejoint la fine analyse proposée récemment par Carlo Santulli dans la Revue Générale de droit international public, qui, à l'encontre d'une doctrine très dominante, soutient la thèse de l'expansion de la souveraineté de l'État, qu'il analyse, lui, à partir des conventions internationales, et notamment des conventions d'extradition. Pour résumer, j'en ai fini, le pouvoir souverain n'est pas ici menacé, du moins en droit, c'est son non-usage qui est marquant, mais c'est de la politique et non plus du droit. Il révèle, et c'est triste à dire pour un juriste, la faiblesse du droit en France qui a des conséquences politiques et économiques. Ce serait une autre matière de conférence que de l'expliquer pourquoi le droit n'est pas pris au sérieux en France. Je m'arrête là et vous remercie de votre attention.